Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, la nuit de l'after continue en direct sur RMC jusqu'à 4h du matin. On est également en direct sur la chaîne YouTube de l'after, bien sûr. L'after première radio de France le soir, Daniel Riolo est de retour. Daniel, bonsoir.
Et bonsoir les amis.
Et Maxime Chalot est avec nous depuis New York. Salut Maxime.
Salut à tous.
L'événement ce soir dans l'after, c'est bien sûr la suite des huitièmes de finale. On va analyser la victoire de l'Espagne dans quelques instants face au Portugal 1-0. C'est en plus la moitié de tableau de la France, adversaire potentiel de l'Espagne éventuellement en demi-finale, plus le match de la nuit tout à l'heure entre les Américains et les Belges, match qui évidemment fait débat avec l'affaire Trump. On y reviendra. Est-ce que cette décision, cette intervention est une des pires interventions de l'histoire de la Coupe du Monde, un des pires scandales de l'histoire de la Coupe du Monde? On en débattra tout à l'heure. On écoutera Donald Trump qui lui est sans filtre. Et puis l'actualité de l'équipe de France qui joue jeudi face au Maroc. Le 32-16 est ouvert. On a également notre numéro WhatsApp disponible pour vous, 0612 424 424. Les gars, je regarde Cristiano Ronaldo qui
100 balles, j'ai mis 100 balles sur le fait qu'il allait chialer.
Ah bah écoute, je crois que t'as gagné.
Ça chiale,
il m'a semblé voir que...
Si, ça chiale forcément, ça chiale forcément.
Les yeux bien rouges.
C'est sûr que dans 4 ans, ça va être dur d'être encore là quand même.
Ça va forcément chouiner un moment ou un autre.
Bon, là on le voit pas. Là, on a des images sur l'équipe d'Espagne qui évidemment fête sa qualification. Cristiano Ronaldo ne sera donc jamais champion du monde. Et on va en parler avec Gary De Jesus qui suit le foot portugais pour nous. Salut Gary.
Salut messieurs.
Salut Gary.
Et avec salut Edgar Grollo qui lui suit le football espagnol. Edgar, bonsoir.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Regarde Daniel.
Voilà, j'ai gagné mon pari.
Gary, est-ce qu'il a pleuré?
Que vous êtes dur. Que vous êtes dur. Ah ouais.
Gary est en deuil.
Là c'est vrai, alors Gary, je t'avoue vraiment. Là ce soir c'est dur de dire ça. Parce que c'est sa dernière et tout ça. Donc je m'en veux presque de rigoler de ça. Sache-le.
Je t'en veux un petit peu aussi, non?
Mais je t'autorise, Gary. Je t'autorise. Je suis sans cœur ce soir, je t'avoue.
Non, il a dit que c'était son dernier mondial, donc on le verra plus sous les couleurs du Portugal pour la Coupe du Monde. Et c'est dur de le dire, mais je pense que c'est une bonne nouvelle, malheureusement.
Exactement. Parce que c'est pas une bonne nouvelle pour le Portugal, finalement. Parce que quand tu vois sa prestation ce soir et même toute sa compétition, honnêtement.
On a vu dans les matchs précédents qu'il y avait une possibilité de le gérer. Donc moi, pour moi, le principal fautif, c'est Roberto Martinez.
Oui. Parce que c'est complètement... De le gérer, c'est-à-dire? Parce qu'il n'a pas l'air d'avoir géré. Quand tu vois que le match dernier, il fait rentrer Gonzalo Ramos. Ouais, mais il est sorti. Ouais, mais très tard. Trop tard.
Mais c'est de la faute de qui s'il ne sort pas avant? Il peut le sortir.
Ah oui, bien sûr, Roberto Martinez, c'est clair. Mais bon, on ne peut pas me dire qu'il était géré. Il a quasiment joué toutes les minutes de la compétition.
Non, mais tu m'as pas écouté. J'ai dit qu'il peut être géré. J'ai pas dit qu'il l'a été. Et ils l'ont montré dans le match précédent qu'il pourrait l'être. Et ils l'ont pas fait. Et Roberto Martinez ne l'a pas fait, malheureusement pour le Portugal. Mais il y avait possibilité de le faire. Et de toute façon, toutes les critiques sont tournées vers Roberto Martinez ce soir, et à juste titre.
C'est impossible qu'il poursuive sa mission après un tel gâchis, après de telles prestations, après une telle bouillie de football présentée depuis qu'il a la tête de cette sélection et notamment dans cette Coupe du Monde. Comment tu peux avoir autant de bons joueurs, parce que ce sont que des bons joueurs, et proposer un tel football? Il doit prendre la porte, comme malheureusement Cristiano Ronaldo, parce que le temps est venu pour lui, mais tout ça doit prendre la porte, et il faut profiter maintenant avec un vrai bon entraîneur. Il faut profiter de tous ces joueurs, de Vitinha, de João Neves, de Nuno Mendes. Bon, ok, j'ai cité les Parisiens, c'est vrai. Mais il y en a d'autres. Il y a des bons joueurs au Portugal, le réservoir. Il y a Conceição qui est rentré à la fin. Il y en a, il faut virer. Bon, bah oui, c'est la fin pour Bernardo Silva aussi.
João Félix fait un super match avant de le sortir.
Bah, João Félix, si quelqu'un est capable un jour de lui visser la tête, pourquoi pas. Mais toujours est-il qu'il y a des bons joueurs au Portugal, ça c'est pas ce qui manque. Mais il va falloir un bon entraîneur. entraîneur maintenant et se séparer de toute une génération.
On a joué comme une petite équipe, on a abordé ce match comme une petite équipe et on sort comme une petite équipe. À la fin, quand il y a encore 0-0, ça se voit clairement qu'on fait tourner le ballon pour attendre la prolongation. Je ne sais pour quelle raison, parce que on a largement les moyens d'aller chatouiller cette équipe d'Espagne qui était loin d'être la grande équipe d'Espagne.
C'est vrai.
Donc on a pas montré grand chose et on sort par la petite porte.
On va revenir sur les conséquences de cette élimination pour le Portugal un peu plus tard, même si évidemment on parlait de Cristiano, Ronaldo est naturel vu l'importance qu'il a dans le monde du foot et que donc ce soir on fait le bilan qu'il ne sera jamais champion du monde. Mais globalement, est-ce que vous êtes séduit par ce match ou est-ce que vous êtes un peu déçu par...
Non, moi j'ai pas passé une bonne soirée. Je m'attendais à... En fait, je me dis que je me suis trompé de m'être excité et d'attendre un gros match parce que j'aurais dû me douter que le Portugal, parce que c'est souvent ce qu'ils ont fait contre l'Espagne, allait simplement attendre. Bon, malgré tout, ça aurait pu donner une opposition de style intéressante, mais on n'a pas eu de scénario fou comme on en a vu pas mal sur ces derniers matchs à la Coupe du Monde. On n'a pas vu de gestes fous, on n'a pas vu d'émotions particulières. J'ai pas vu grand-chose dans ce match, je suis profondément déçu et ma déception est d'autant plus grande qu'il y a deux très belles équipes, beaucoup de bons joueurs. Et même l'Espagne, finalement, bon, elle a gagné, c'est mérité. Même pour l'Espagne, moi, oui, c'est un favori dans la bouche de tout le monde depuis le début de la compétition. Mais je ne sais pas comment, parce que, ils ont beaucoup le ballon, mais je trouve aujourd'hui, ça ronronnait pas mal. Il n'y avait pas beaucoup d'accélération, il n'y avait pas beaucoup de prise de risque. Un peu au début, les premières 20 minutes, mais l'Espagne n'a pas fait non plus un très gros match.
Maxime, t'es d'accord?
Et Daniel, avant la 70e et la pause fraîcheur, l'Espagne, t'avais l'impression, t'avais des séquences, ils avaient pas envie de jouer, ou parfois t'avais des séquences, il y avait que Daniel Olmo qui avait envie de jouer, et les autres, ils le regardaient, il était frustré, dans l'utilisation du ballon.
Si avant, au début la deuxième match, pause fraîcheur, c'est un mauvais décalage. Match dans de la part des Espagnols. Il y a eu 2-3 décalages qui ont donné des situations.
Avec l'occasion de Yersabal, notamment.
Des situations de ballon chaud dans la surface, mais qu'on appelle pas occasion, parce que ça ne s'est pas conclu par des frappes. Tu sais, c'est ces ballons, quand ils font les triangulations, là, avec les hop, et puis la passe en retrait. Mais sauf qu'il n'y a personne en retrait à la réception. Tu vois, ces mouvements qui sont très beaux dans leur construction, mais qui ne se sont terminés par rien et qui n'ont pas donné d'occasion, justement.
C'était pas dans le rythme avec le ballon aujourd'hui.
L'histoire nous a montré que c'est Portugal-Espagne débouche toujours sur des matchs un peu fermés. Il n'y a qu'à regarder les derniers résultats et notamment cette finale de National League. Moi, où je rejoins Daniel par rapport à son analyse, c'est que je m'attendais malgré tout à un match ouvert. Alors, quand je dis match ouvert, en tout cas dans le contenu, je m'attendais à avoir du beau jeu du côté espagnol.
On n'aurait pas dû.
J'ai fait l'erreur, mais quand tu regardes un petit peu le parcours du Portugal, ok, il y a eu ce premier match, alors on peut dire que c'est le premier match du Portugal, c'est poussif contre le Congo, un but partout. Il y a ce match contre l'Ouzbékistan où tout le monde a levé les bras en disant ça et le Portugal est lancé, mais on s'était bien positionné en disant que l'Ouzbékistan n'avait rien à faire dans cette Coupe du Monde. Et derrière, ça a été très très poussif quand même contre la Colombie. Ils doivent ce match nul
contre la Colombie, ils doivent perdre 100 fois.
Exactement, parce qu'il y a ta Sanchez, t'as la dernière seconde là,
ils se font
marcher dessus complètement, et ne parlons même pas de la Croatie, parce que clairement, Portugal-Croatie, c'était très très serré. On a le droit à un pénalty de Cristiano, mais on a surtout le droit au rentrant Gonzalo Ramos qui sauve un petit peu le Portugal. Et quand tu regardes et que tu fais le bilan un petit peu de cette équipe pendant cette compétition, finalement, c'était prévisible, il n'y a absolument rien. Alors il faudrait se poser la question, et moi là, j'ai envie de vous la poser aujourd'hui, pourquoi Roberto Martinez a insisté avec Cristiano Ronaldo? Moi, je me pose la question. On parlait éventuellement
parce que
son avenir serait lié.
C'est un enfermement psychologique, parce que son statut dépasse la réflexion.
Parce que Gary nous a
expliqué tout à l'heure, et moi, ça fait des années que je dis qu'il bloque toute évolution dans le jeu de cette équipe, parce que le temps s'est emparé de lui et qu'il peut plus s'en défaire. Mais Gary nous l'a dit tout à l'heure dans l'avant-match. À partir du moment où au Portugal, personne, je dis même pas dans les journalistes, parce que dans les journalistes, je veux bien entendre que c'est du 50-50 ou je ne sais pas qui ose vraiment le dire, mais si aucun acteur du football, parce que les acteurs du football ont toujours une voix qui porte dans un pays, tu sais, à un moment quand il faut aller oser toucher à quelque chose qu'il ne faudrait pas toucher, c'est toujours les anciens qui ont un petit peu la clé et qui osent dire des trucs. Par exemple au Brésil, aucun n'a osé parler de Neymar, par exemple. Et ben si aucun ancien joueur, parce que t'en as aucun qui a le palmarès de Cristiano, n'a osé dire il faut tourner la page, personne n'ose y toucher.
Alors de le faire,
personne n'ose
y toucher. Et donc il faut prendre un sélectionneur.
Il est rien du tout. Il est même pas portugais.
Voilà. Et ben alors c'est peut-être la problématique de cette fédération.
C'est un employé, c'est un salarié de la fédé. Il vient là. Il peut pas. Il est jamais de la ville.
Donc tu penses que si t'as,
il est pas plus important.
Excusez-moi, je termine.
Roberto Martinez.
Si tu penses, alors si la fédération avait choisi par exemple un José Mourinho, est-ce que José Mourinho serait positionné de cette manière-là
aujourd'hui? Peut-être que dans le. Mais c'est pas la même chose.
C'est pour ça que je t'explique que l'erreur peut-être vient de la fédération en ayant nommé déjà Roberto Martinez. Qui a déjà fait n'importe quoi avec cette génération dorée en Belgique et qui refait la même chose avec
Roberto
le Portugal.
Martinez, tu avec
il devait partir.
Non, moi, il devait partir
avant la Ligue des Nations, mais comme il la remporte et qu'il bat l'Allemagne en Allemagne et qu'il bat l'Espagne sur le fil, il gagne du sursis en fait, mais ça fait un moment qu'on perd du temps à regarder cette équipe du Portugal avec Roberto Martinez. Et de toute façon, même si vous parliez de José Mourinho, même si c'était José Mourinho, parce que c'était fait pour lui normalement la suite. Tout était fait pour lui. C'est juste qu'il y a cette opportunité du Real Madrid qui sort de nulle part, que José Mourinho saisit tout de suite. Mais normalement, il était censé reprendre la Selecao. Et lui aurait été capable, je pense, de mieux gérer Cristiano, pas de le sortir.
Mais dis-moi, Gary, arrêtons-nous sur ce point, s'il te plaît, deux secondes. Pourquoi le Portugal, alors, comment dire, pourquoi il n'arrive pas à trouver un sélectionneur? Qu'est-ce que je veux dire par là?
Il y a Amorim, hein, par exemple.
Parce que Fernando Santos était tombé
Il veut bien gagner sa vie.
Il était un petit peu tombé là, un peu par hasard, et bon, il y avait eu cette victoire à l'Euro inespérée, premier titre, et donc il a été, forcément, il était devenu intouchable, parce que quand tu remportes un titre comme ça dans un pays qui attendait ça depuis des années, mais bon, au fond, bon, c'était le daron, c'était le tonton, tout ce que tu veux, mais on n'est pas en train, quand on sait l'école de pensée footballistique qu'il y a au Portugal, les entraîneurs qu'il y a eu sur ces dernières années, le rôle central que le Portugal a joué même dans l'évolution du foot 20 dernières années. Santos, je l'aime bien, c'est gentil, ça plaît et tout, mais bon, il y a quand même beaucoup mieux. Dans la foulée, et Roberto Martinez, et même si on remonte avant, quand ils étaient allés prendre le Brésilien, là, Scolari. Mais il n'y a pas d'entraîneur portugais à mettre à la tête de cette sélection, hein, bonjour, une bonne fois pour toutes, à un moment.
Il y en a plein. Le problème, c'est qu'ils étaient un peu trop hype pour aller en sélection. C'était tous des coachs qui avaient position, qui avaient des positions plus importantes, qui allaient en première ligue, qui avaient des possibilités d'aller à mieux, tout simplement, que ce soit en termes de salaire, en termes d'opportunités. Après, là, même là, la suite, c'est pas non plus reluisant. Ce qu'on annonce, c'est ce qu'on entend parler, c'est Jorge Jesus. Donc, c'est pas non plus, même si c'est mieux. Que Roberto Martinez
en termes de jeu, c'est quand même mieux, Jorge Jesus.
Oui, c'est mieux ce qu'il a fait à Flamengo, ce qu'il a fait au Sporting à Benfica, c'est quand même plus sympa. Mais bon, il était à Al Nassr dernièrement, il était à Lille à l'avant, il est quand même coupé du football de très haut niveau depuis un petit moment. Donc j'ai envie de voir ce que ça donnerait.
Pause et ensuite on va écouter Roberto Martinez. On parlera de l'Espagne bien sûr longuement. On a également Antonio qui est supporter portugais qui nous attend. Et puis avant minuit on démarrera le débat sur l'interférence politique dans cette Coupe du Monde. Trump ne savait pas ce que c'est qu'un carton rouge. Ça l'a pas empêché d'appeler Infantino pour faire enlever son balogun. On écoutera Donald Trump.
Il a spoke to Gianni.
Ah, yes.
I spoke to Johnny.
Allez.
Ton séjour aux États-Unis, t'as fait du bien.
Fait un t-shirt. Hein. Je suis sûr que si tu fais des t-shirts, fais un carton avec ça.
Ah, quoi? I spoke to Johnny?
Ah, bah, I spoke to Johnny, c'est un t-shirt, quoi. C'est extraordinaire.
Ouais.
Mais cette phrase-là, mais ça ridiculise, ça transforme Infantino qui était déjà un clown. Mais là, il a tout. Il a le chapiteau, il a les orchestres.
Et il est passé de clown à bouffon, peut-être.
Mais exactement. Mais c'est humiliant, la phrase I spoke to Johnny, mais c'est mort, il est fini, il est cramé, quoi.
A tout de suite dans l'after, on est là jusqu'à 4h du matin avec donc à 2h, vous le savez, tout à l'heure, le match États-Unis-Belgique.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 23h20, Daniel Riolo et la Maxime Chano également. Nuit de l'after jusqu'à 4h avec encore un 8e tout à l'heure qui promet entre les Américains et les Belges. Gary De Jesus qui suit le foot portugais est avec nous. Edgar Grollo qui lui vit à Madrid est avec nous également. On va parler longuement de l'Espagne dans quelques instants. Mais là on est
Edgar,
sur le Portugal.
Edgar, il est sur tous les gros matchs. Vous avez noté un peu les affiches qui...
Ah oui, là j'ai eu de la chance servie, Edgar. C'est une belle série là.
Sans déconner, là tu touches le gros
match.
Mais mes trois derniers matchs, c'est Pays-Bas-Maroc, Argentine, Cap-Vert, Mexique, Angleterre.
Bah mon vieux, mais t'as certainement jamais aussi bien porté ton nom.
Ah ben là vraiment, là c'est la fois où tu peux sortir là, Daniel. C'est la fois où je te l'accorde.
Bravo, bravo. Ah, tu as fait des jaloux, hein, sache-le Edgar. Hein.
Ah tiens Gary, on a l'interview de Roberto Martinez à la sortie du match là. On peut te laisser traduire. Alors, Jimmy Brown me dit que ce n'est ni du portugais ni de l'espagnol, mais vraisemblablement du portugnol. Donc je ne sais pas si t'es prêt.
Je suis bilingue en portugnol, il n'y a pas de souci.
Allez, c'est parti.
Le rêve du Portugal termine aujourd'hui. Quel message vous voulez laisser aux supporters? Je laisse le message qu'on peut être très fiers de nos joueurs, de leur rendement. Ils ont tout donné. C'est notre meilleur match du mondial. C'est triste. C'est triste parce que le ballon tape sur la barre. C'était un jeu très égalé. Nous espérions arriver aux prolongations. Nous sommes fiers du compromis des joueurs. Le football, c'est comme ça et il faut l'accepter. Qu'est-ce qui s'est mal passé aujourd'hui pour la sélection? Nous avons très bien défendu. Nous avons été agressifs. Nous avons joué contre une équipe qui est favorite du mondial. Et je pense que nous avons joué à égal contre eux. Nous avions besoin d'un peu plus de chance dans le dernier tiers pour concrétiser les opportunités. Mais en général, c'est un match que le Portugal ou l'Espagne pouvaient gagner. C'est un match très équilibré, comme l'a été la finale de la Ligue des Nations. Et probablement, nous méritions d'arriver aux prolongations.
Voilà pour Roberto Martinez qui dit pas.
Prolongation, ça aurait été un succès pour Roberto Martinez.
Donc, ouais, c'est ce que j'allais dire. La phrase, on voulait aller à la prolongation. Mais génial, quelle ambition.
Ça illustre son cycle.
Exactement.
Moi, je veux poser une question. Et alors, très rapidement, par rapport à la situation de Cristiano Ronaldo, je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai été étonné du nombre de minutes qu'il a eu par rapport à ce qu'il a montré sur le terrain. Et en fait, je me pose la question aujourd'hui, et on le sait, hein, dans le football, aujourd'hui, on a besoin d'un entraîneur qui est plus fort que son vestiaire, d'accord, plus fort que ses grandes stars. Et je me pose la question si Cristiano Ronaldo, finalement, c'est pas plus profond le problème. Cristiano Ronaldo, en fait, il n'est pas uniquement sur le terrain, il est peut-être aussi à l'extérieur du terrain. Est-ce que c'est pas un problème de hiérarchie? Et c'est pour ça que je mettais en avant le problème de la fédération portugaise.
Depuis le début de ce mondial.
Non, mais pour moi c'est important parce que je suis à l'intérieur. J'ai été à l'intérieur d'un groupe et je peux te dire une chose. Quand on voit un joueur, peu importe le statut qu'il a, qui ne fonctionne pas, et ben on se rassemble 3, 4, 5 joueurs ensemble et on va parler à l'entraîneur. Ça m'est arrivé en équipe nationale, ça m'est même arrivé contre moi pour te dire. Je l'ai appris de la part du directeur sportif que j'avais plusieurs joueurs qui étaient venus.
Il y avait Cristiano Ronaldo. Et c'est ça la.
Mais non, mais c'est la question. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui,
c'est leur idole en fait. Tous les mecs qui.
Mais leur idole, il arrive un moment, t'as envie de gagner le mondial, l'idole.
Il n'y en a pas Gary, qui va lever le doigt pour aller voir le coach en disant.
Et en fait, je termine, s'il te plaît, Gilbert et Gary. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que la fédération n'avait pas tout à gagner? Et j'ai bien compris ton explication, Gary, par rapport à ce qui s'est passé avec Roberto Martinez et la National League. Mais est-ce qu'elle n'avait pas tout à gagner à prendre un entraîneur qui est au-dessus de Cristiano Ronaldo? C'est pour ça que je parlais de José Mourinho. Moi, l'erreur, elle part de là.
C'est pas possible.
Non, mais c'était avant, bien sûr. Mais c'est, en fait, essayer de reprendre dans le contexte.
Dis-moi,
en fait.
Elle aurait pris qui aurait été au-dessus de Cristiano Ronaldo?
Et c'est pour ça juste que je te dis que la fin de Cristiano Ronaldo, je pense que ça va permettre de libérer cette équipe nationale, ça va permettre aussi de libérer la fédération. Et tu vas.
Ça c'est ouais, bon,
mais je le répète.
Maintenant, c'est fini.
C'est une certitude, mais moi, c'est pour moi, tu enfonces des portes ouvertes. C'est-à-dire qu'on aurait appelé. Moi, j'aimerais bien savoir quel coach on aurait mis à l'époque où on a mis Roberto Martinez, qui était au-dessus de lui.
Non, non, mais ça, il a raison, Gary. Là, en fait, à partir du moment où il a ce caractère-là et cette personnalité qui, je le dis souvent, je pense qu'il y a quelques années, il a complètement vrillé. C'était impossible, en fait. Il est devenu ingérable. La situation était devenue ingérable.
C'est pas normal. Attends, tu parles d'un joueur qui gère tout.
Non, tu parles pas d'un joueur.
Il a même pas besoin de gérer.
Si, je comprends. J'entends ce qu'il a fait pour le football.
En fait, d'un mec qui est. Moi, je sais même pas s'il parle aux autres, en fait. Moi, je l'imagine manger dans son coin, genre avec les gens qui viennent lui dire « J'ai le droit de te parler. »
On a vu les images avant le match, par exemple, avec les mecs autour de lui.
Mais tu vois pas qu'il a que des comportements bizarres?
Bah non, je peux, non.
Mais il a que des attitudes, des comportements non, bizarres, on dirait.
Sur interprète.
Mais pas du tout. Mais moi, je te dis que ce gars-là, il est. Mais moi, je te parle.
Après,
que ce
c'est comme
années,
les mecs comme.
T'entends
comme...
dire qu'il est dans une secte. Et il est. Pour moi, il est il va vriller transhumaniste.
Voilà. Bon, je sais pas.
Tu paries tout ce que tu veux. Il va finir dans le camp Jeff Bezos, Elon Musk. C'est un transhumaniste. J'en suis persuadé.
Bon, restons sur.
Il est ailleurs. Il est sur. Je te dis, il est.
La numérologie de Roberto Martinez n'a pas super bien fonctionné.
Sortons un peu du cas Cristiano. Parce que quand on l'a dit un peu en début, là, quand tu prends individuellement le milieu de terrain, les joueurs qu'on voit nous fonctionner toute l'année, notamment au PSG, faut dire, en fait, c'est quand même surprenant de ne pas réussir à produire quelque chose de mieux.
T'as vu Neves ce soir?
Avec un tel.
Neves, on ne sait même pas où il est.
Avec de tels joueurs.
C'est ce qu'on disait. En fait, il y a complètement un changement de prisme du début de cette compétition. L'avant-compétition même, où on était, on a le meilleur milieu de terrain du monde, meilleur milieu de terrain que l'Espagne. On a tel et tel joueur qui joue au Paris Saint-Germain, ils vont jouer ensemble. Va avoir une cohésion. On a le meilleur joueur de première ligue avec Bruno Fernandes, meilleur passeur, etc. Blablabli. On a tel et tel joueur. On a Diogo Costa qui était en train d'exploser, qui est très fort avec Porto, le capitaine du FC Porto. On a plein de joueurs qui ensemble vont faire quelque chose de fou. Mais le problème depuis le début, c'est-à-dire que ces joueurs-là ensemble, en plus, le pire, c'est que tisser la blague jusqu'au bout, c'est-à-dire que Roberto Martinez n'a fait que parler de ses concepts. On met en place des concepts, on met là pour le coup on dirait un peu une secte comment il parlait, c'est-à-dire qu'il y a plein, il y a des concepts de jeu qu'il met en place, il travaille sur ces concepts de jeu, il s'est même comparé à l'Espagne. Oui, on a des jeux un peu similaires, mais c'est une vaste blague, parce que ce que propose le Portugal et ce qu'a proposé le Portugal depuis le début de cette compétition et depuis le cycle Roberto Martinez, c'est un néant en termes de jeu, en termes de tactique. Quand il sort les quatre joueurs d'un coup contre la Croatie et qu'il y a Bernardo Silva et João Neves complètement esselés dans l'axe parce qu'il veut pas sortir Cristiano au milieu et que t'as Cristiano et Ramos devant et que là t'as personne au milieu et qu'on prend un bouillon pas possible par la Croatie, il est obligé de sortir Cristiano. Et d'ailleurs, c'est la seule fois qu'il l'a fait, parce que même lui a vu le bouillon qu'on se prenait contre la Croatie. Il a fait rentrer Ruben Neves pour équilibrer un petit peu le milieu de terrain. Mais il y a que des choix tactiques fous comme ça, et on a beaucoup de mal à comprendre. Quand il y a un joueur qui est titulaire, il fait un bon match. À chaque fois, on s'adapte à l'adversaire. C'est incompréhensible les choix qu'il met en place. Et c'est vrai que on est extrêmement déçus du cycle Roberto Martinez.
Antonio, supporter portugais. Salut Antonio.
Ouais, bonsoir. Bonne nuit à tous.
Salut. Tu nous as écouté tout à l'heure. Là, t'es d'accord avec ce que t'entends?
Ouais, je vous écoute. Ouais, je vous écoute. Après deux, trois petits points sur lesquels j'étais d'accord. Roberto Martinez, il est nul, ce coach. Tactiquement, il est nul. Enfin, il y a plein de changements qu'il doit faire et qu'il ne fait pas. On ne l'a pas gardé à l'équipe de
Belgique.
On l'a pas gardé en équipe de Belgique. Pourquoi? En fait, tactiquement, c'est un coach qui est nul. Et puis, j'ai fait un rêve cette nuit. Que Ronaldo était sorti un quart d'heure de la fin, que Gonzalo Ramos était rentré, et la dernière occasion, c'était pas Silva qui la reprenait de la tête, c'était lui, quoi. Bon, après,
on en est là.
C'est vrai que Gary, tu dis, t'as raison, bien sûr, je lui vois un culte à Ronaldo, mais si tu veux faire quoi? Tu veux gagner la Coupe du Monde ou tu veux t'entêter à rester sur le terrain? Alors que dire la vérité, c'est pas une critique, les gars. Ronaldo, il a rien fait de la Coupe du Monde.
Mais c'est pas critiquer
le joueur ni le ce qu'il représente. C'est dire la vérité, Gary.
Mais le pire, c'est que Cristiano Ronaldo, il n'est pas lucide. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il a vrillé. Il ne se rend pas compte qu'il n'est plus au niveau. Il croit encore qu'il est le meilleur joueur du monde.
Il l'a dit hier en conférence de presse. Il a dit, je suis plus le joueur que j'étais avant, mais je m'adapte.
C'est très compliqué d'avoir une lucidité sur tes propres performances. C'est très compliqué quand t'es un joueur moyen, encore moins quand tu t'appelles Cristiano Ronaldo.
Oui, si je pouvais dire. Et puis on parle de Vitinha, les gars. On parle de João Neves, mais ils sont cramés. C'était cramé pendant toute la Coupe du Monde. Fernandez, c'était son frère qui jouait ou c'était quoi le délire? Honnêtement, Fernandez, il a pas mis un pied devant l'autre. Gary, tu sors un joueur de la Coupe du Monde des quatre matchs du Portugal.
Moi, le joueur que je sors, c'est Diogo Costa.
Exactement. C'est lui, t'es le meilleur.
C'est Diogo Costa parce que Bruno Fernandes, c'est son frère.
C'est ton gardien de but.
Bruno Fernandes, il a jamais été bon avec le avec la sélection. Il a jamais été bon.
Bernard
Silva, il a jamais été bon avec la sélection. Cancelo, il a jamais été bon avec la sélection. Enfin, tous ces joueurs-là,
c'est vrai ce que
ils ont
sous-performé. C'est des joueurs qui sont fabuleux en club, mais en sélection, ils n'ont jamais réussi à avoir le même niveau.
Et moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'il y a un autre coach qui amène quelque chose de nouveau pour que ces Vitinha, ces
joueurs-là,
qu'ils puissent développer quelque chose que les autres n'ont pas pu faire.
Si je peux finir sur le coach, on n'a pas des bons coachs. Ruben Amorim, c'est pas un bon coach. Même à la rigueur, je pensais à lui, Leonardo Jardim, c'est pas un super coach.
Ah, j'allais le citer,
c'est
tiens.
Un super coach.
Il est à Fabrizio.
Ah ouais, non, mais demande-leur leur salaire à Botafogo ou, demande, ou le salaire de Amorim à Milan AC.
Oui, je suis d'accord
c'est
avec toi.
C'est des choix de carrière.
Enfin, il y a quand même une super aventure à faire avec le Portugal, avec tous ces joueurs.
Bien sûr.
Bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est du gâchis. Ouais.
C'est quand même, enfin, franchement, c'est un pays de foot. Il y a des joueurs extraordinaires. Non, il doit bien y avoir un coach parmi tous ceux que vous avez qui va se dire, allez, je prends la sélection en main, on va construire un truc quand même.
Et tu penses que ça changerait quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, alors, je suis premier à dire que Roberto Martinez était une erreur de casting, mais enfin, qu'est-ce que tu aurais voulu changer aujourd'hui? Je parle vraiment d'un point de vue tactique sur cette équipe du Portugal. Très rapidement.
Non mais c'est juste. C'est qu'est-ce que tu fais sur le terrain. Moi aujourd'hui cette équipe.
Qu'est-ce que tu changes à part le cas Cristiano Ronaldo. T'as mis ton meilleur.
Il casse tout le jeu offensif.
C'est pour ça que je t'explique ça. C'est qu'aujourd'hui tu peux rapporter n'importe
qui te flingue l'équipe.
Voilà. Mais tu peux ramener n'importe quel entraîneur tant que tu auras Cristiano Ronaldo. Gary l'a dit très tôt, rapidement. Gary l'a dit tout à l'heure. Quand il fait les quatre changements contre la Croatie, Roberto Martinez, pourquoi il fait ces quatre changements-là? Pourquoi il y a cette infériorité numérique qui a été installée au milieu de terrain? C'est parce qu'il a voulu laisser Ronaldo. Le problème du Portugal, c'était Cristiano Ronaldo. Et on l'a aimé. Ça a été un joueur exceptionnel. Il nous a tous fait aimer le football.
Ça fait des années que je dis que c'est un problème.
C'est tout, t'as beau chercher, changer d'entraîneur, changer de défenseur central, ça ne changera rien.
Parce que Gary, là, il a perdu le Cap-Vert, il a perdu le Brésil, il a perdu le Portugal. Donc là, c'est son jubilé ce soir.
Cette soirée.
Donc,
c'est vrai, Gary, voilà, l'histoire est terminée.
C'était bien, hein, franchement, t'as tenu jusqu'en 8e et tout, on te dit chapeau. Mais voilà, si tu veux nous dire le mot de la fin sur le Portugal.
Pour ça que t'as le Portugal ou le Brésil, être éliminé en 8e, la performance est moyenne pour Gary quand même.
Elle est moyenne, c'est vrai. Bon, le mot de la fin est pour toi en tout cas, si tu veux rajouter un truc.
Bah écoutez, moi juste pour le Portugal, je suis triste parce que c'est un gâchis phénoménal qu'on observe depuis plusieurs compétitions. Et quand on voit tous les fanatiques qu'il y a au Portugal et tous les Portugais qu'il y a dans le monde qui rêvent de voir cette sélection performer, parce que Maxime doit le savoir, parce qu'ils sont nombreux aussi au Luxembourg, les Portugais dans le monde, ils vivent et ils voient beaucoup, ils retrouvent de leur pays et de leur soldats à travers cette sélection. Donc je suis triste pour les Portugais qui voient cette sélection qui ne performe pas et qui, malgré la génération qu'elle a, malgré tout le talent qu'elle a et malgré toute la passion qu'elle a pour le football, de rendre une copie telle qu'elle a rendue dans cette Coupe du Monde, c'est
bon,
triste.
Bon, après, maintenant, Gary, c'est à la Fédé de pas se tromper sur le nom et d'écrire un nouveau projet. Maintenant, il va falloir aller de l'avant. Donc, dire au revoir à Cristiano, merci, nouveau sélectionneur, et puis on va voir.
Alors, Cristiano, sélectionneur.
Il y a peut-être un truc pas mal qui peut se dire.
Sélectionneur-joueur, ce serait pas mal.
Sélectionneur-joueur, ça c'est déjà vu.
Ah, ça serait fantastique.
Merci, Gary. Il tirerait tous les coups francs et tous les pénalties.
Attention, dans 2 ans, il demandera une base sur Mars ou une autre planète, il sera plus là.
Bon, Gary, on se retrouve en Ligue des Champions, hein. On verra ce qui se passe.
Avec plaisir.
Merci pour tout, en tout cas, à bientôt.
Salut Gary.
Bonne fête de compétition à vous en tout cas.
Salut Gary, à bientôt.
C'est Musk ou Bezos qui a la fusée de se barrer là.
C'est Musk.
Non, oui, mais Bezos il a pas prévu de se barrer. Mais je suis sûr que Cristiano partira avec lui.
Très bien, bah écoute, on va faire
un emploi groupé.
Mais Bezos, je crois qu'il faisait des vols dans l'espace pour les touristes.
Voilà, c'est ça.
Acheter, c'est ça. Voilà, c'est ça.
Dans un instant, l'Espagne. Edgar écoute attentivement les problèmes portugais. Lui, il s'en fout, il est en quart.
Lui, il avance. C'est son année jackpot, lui.
Continue. Dans un instant. L'Espagne au programme dans la nuit de l'after dans quelques secondes.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
23h37, la nuit d'after continue jusqu'à 4h du matin cette nuit, tout à l'heure à 2h États-Unis, Belgique, bien sûr le sort du monde repose sur les épaules de Rudy Garcia, on vous expliquera pourquoi tout à l'heure, il va sauver le football peut-être cette nuit Rudy Garcia. Pour l'instant on est sur l'Espagne avec Maxime Chano, avec Daniel Riolo, avec Edgar Grollo. Edgar, l'Espagne est en quart de finale en ayant encaissé 0 but.
Ah oui, c'est ça qu'il faut retenir. Et je pense que défensivement, pour moi, il faut séparer la prestation de l'équipe espagnole en deux parties. C'est-à-dire défensivement et après ce qu'ils ont fait avec le ballon. Défensivement, c'est encore excellent et c'est excellent depuis le début du match. Et je pense que s'ils n'étaient pas aussi solides, que leurs centraux n'étaient pas autant en forme depuis le début de la compétition, peut-être que ce match face au Portugal aurait terminé différemment. Honnêtement, la copie, elle est quasiment parfaite sur ce plan-là ce soir, même si ils ont aussi eu un petit peu de réussite qui allait dans leur sens aussi. Mais après, avec le ballon, pour moi, c'est l'une des pires utilisations du ballon sur la majorité du match, hein, et surtout jusqu'à la
70e. Moi, je trouve que ça a manqué de vitesse. Parce que la justesse, les intentions, tout ce qu'ils font sur le terrain et qu'on aime, on le voit. Mais si c'est fait à cette vitesse-là.
Je trouve que ça manquait.
Si c'est fait à cette vitesse-là.
Je trouve que ça manquait. Il y avait beaucoup moins d'appels, beaucoup moins de propositions, beaucoup moins de
combinaisons. Ça ne va pas déstabiliser beaucoup d'équipes. Il va falloir aller plus vite, il va falloir mettre beaucoup de vitesse, encore plus de percussions. Là, c'était vraiment un peu au ralenti aujourd'hui, j'ai trouvé.
À la grande différence de 2024.
Maxime après Edgar, vas-y Max.
Non mais Edgar va peut-être confirmer ce que je dis, mais avec la grande différence de l'Euro 2024, c'est vrai que t'avais énormément de joueurs qui venaient chercher les ballons dans les pieds, c'est ce qu'on a vu ce soir, mais t'avais surtout deux flèches sur le côté, t'avais Lamine Yamal qui était en pleine bourre, et puis t'avais surtout un Nico Williams, et aujourd'hui c'est ce qui manque à cette Espagne. Elle est trop prévisible. Yamal n'a pas retrouvé son niveau, Nico Williams il a encore la tête ailleurs, et donc en fait c'est ce qui fait la grande différence. Moi je trouve qu'elle est prévisible et on l'a vu, hein, les Portugais ils ont très vite compris ça. Ils allaient très vite chercher les joueurs espagnols dès qu'ils recevaient le ballon dos au jeu dans les pieds et c'était très facile de pouvoir les repousser. Tant qu'il n'y aura pas un petit peu de verticalité dans cette Espagne, mais pour cela, il faut que Yamal reprenne un petit peu le niveau qu'on a connu un peu plus tôt, il y a quelques années et même encore, surtout l'année dernière. Mais c'est vrai que, je le répète encore, moi je les trouve prévisibles. Et même si, encore une fois, je trouve qu'ils montent en puissance, là, ils m'ont pas forcément impressionné. Après, c'était encore une fois un match un peu particulier. C'est le Portugal, on sait bien. Mais voilà, les clés, en tout cas, d'avoir une Espagne, en tout cas, dominante, c'est de retrouver un petit peu de verticalité dans le jeu, ce qu'ils n'ont pas su faire, encore une fois, ce soir.
Après, je suis d'accord avec toi, Lamine Yamal, j'ai pas l'impression qu'il soit.
Ça a jamais été le truc de l'Espagne. Vas-y. Edgar.
Ouais, mais Luis de la Fuente a changé aussi ce jeu. On n'est plus dans le stéréotype de Luis Enrique ou d'autres par le passé. Mais je pense que Lamine Yamal, on a vu aujourd'hui que physiquement, j'ai pas l'impression qu'il est à 100%. Il a pas, évidemment, il a toujours ses qualités, mais il est pas à son meilleur niveau.
Si tu me dis qu'il a fait plus de 8 km aujourd'hui, j'ai du mal à y croire, mais bon.
Ah non mais ça sent, même sur les petits espaces, sur les premières accélérations, il est passé 2-3 fois, mais c'est pas le même joueur qu'on a vu à certains moments cette saison.
Ça manque d'explosivité, de prise d'initiative ou bien.
Mais d'ailleurs, exactement. Yamal, un peu sur Yamal, 2 secondes. Excuse-moi Edgar, mais évidemment qu'il y a dans cette Coupe du Monde un chapeau 1 de joueurs qui se tirent la bourre, Mbappé, Haaland, Messi. Yamal, il est supposé être dans ce chapeau 1. Yamal, si on prend les stars, c'est un peu la déception.
Oui, mais
s'il n'est pas
au top physiquement, ça s'explique, hein, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas au top. Hein.
Il n'est pas à 100%. Et en plus de ça, autour de lui, il n'a pas tous les joueurs qu'il aimerait avoir ou à leur niveau. Ce qui fait qu'en plus de ça, il n'est pas forcément dans les meilleures conditions collectivement, offensivement pour cette équipe espagnole. Comme le disait Maxime, quant à Nico Williams de l'autre côté, ça change tout parce que forcément, il y a un meilleur équilibre. Et d'un coup, tous les défenseurs, ils peuvent pas se dire, OK, on va bien bloquer l'aile droite parce que de l'autre côté, t'as aussi un gars qui peut provoquer. Là, Alex Baena, il a beaucoup de bonnes intentions et je trouve qu'il a apporté tactiquement à cette équipe depuis le début de la compétition. Mais tu sens quand même que dans l'élimination, il est largement en dessous, il n'est pas au niveau face à une équipe comme le Portugal,
après,
ou en tout cas pour faire des vraies différences.
Il est sorti, et puis après, bon, il y a sans doute plus d'espace pour lui.
Non, effectivement, cette équipe, elle manque de verticalité, elle manque de créativité aussi. Et il y a un autre joueur qui m'a déçu aussi aujourd'hui, c'est Pedri. Je trouve que il n'y a pas beaucoup de créativité, il n'y avait pas beaucoup d'idées. Souvent, il s'est contenté de contrôler, de passer. J'aime bien aussi quand il joue simple. Mais là, Dani Olmo, je trouvais qu'il manquait de soutien. Il manquait d'un acolyte pour créer, pour inventer des choses. Et il était souvent très, très seul. Et on l'a vu parfois sur certaines actions, un petit peu de frustration chez Dani Olmo. Et d'ailleurs, en Espagne, ils n'ont pas trop compris quand Luis de la Fuente a sorti Dani Olmo parce que c'était sûrement le meilleur espagnol sur le terrain. Et finalement, ça a marché parce que Merino, il a apporté aussi ce qui manquait dans la surface de réparation parce qu'il y avait des moments où il n'y avait pas de présence espagnole dans la surface portugaise. Ça s'est vraiment senti. Oyarzabal, on ne l'a pas vu du match. Et Merino, il est capable aussi d'apporter ça et il l'a fait sur son but.
Sur Yamal, Max, tu veux rajouter un truc?
Non, bah juste qu'il a pas retrouvé sa forme. Hein, on le connaît. C'était et j'ai trouvé très juste ce que tu as dit, Gilbert. Quand tu regardes un petit peu par rapport aux grandes stars, Haaland, Messi, Mbappé,
même s'il est blessé.
Aujourd'hui, chaque équipe qui aujourd'hui est qualifiée. Si, Daniel, parce que chaque équipe qui est qualifiée en quart de finale a sa star qui a répondu présente. C'est pas le cas avec l'Espagne. Oui, donc ça prouve aussi que le collectif espagnol a pris un petit peu le dessus sur les individualités. Ouais. Et je pense que l'Espagne doit s'appuyer là-dessus. Voilà.
Bah, s'il arrive à se soigner, être plus en forme, de toute façon, dans le match que je vois et dans l'Espagne que je vois depuis le début de la compète, de toute façon, tu peux pas te passer de lui. Même diminué, moi, je le mettrais parce que, sinon, tu vas avoir un jeu qui va être encore plus ronronnant, avec le risque d'un manque de percussion. Là, malgré tout, même si à de nombreuses reprises il a été pris par Nuno Mendes, le truc, c'est qu'un attaquant, à la différence du défenseur, s'il passe une ou deux fois, ça peut suffire. Et même s'il se fait manger 80% du temps. Et Yamal, il a quand même réussi à déclencher une ou deux frappes, un ou deux centres qui se sont avérés dangereux. Donc, il reste important. Maintenant, pour avoir un Yamal au top, je sais pas moi s'ils peuvent le récupérer physiquement d'ici mercredi prochain. Déjà, première étape pour le quart de finale.
Pablo est là. Pablo, supporter espagnol. Salut Pablo.
Hola, buenas noches. Bonsoir tout le monde.
Non, c'est ce week-end, pas mercredi prochain.
Salut Pablo.
Pablo, est-ce que cette équipe d'Espagne te plaît? Et est-ce que tu la vois monter en puissance ou t'es plutôt inquiet ce soir?
Alors, inquiet, non. Parce qu'il faut quand même féliciter l'équipe du Portugal qui a été très solide. Et je vous entendais avant avec le cas Cristiano Ronaldo, comme je disais avant. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir un Luis Aragonés comme a connu l'Espagne. Parce qu'ils avaient le même problème avec Raoul en 2006. Et quand Luis Aragonés est arrivé, il l'a jerké en 2008 et a fait une équipe. Aujourd'hui,
c'était pas à ce niveau-là quand même.
Oui, c'est pas Cristiano Ronaldo, mais par contre, c'était un idole au pays.
Ah si, médiatiquement, oui. Ça a été un cas national, hein, Riolo. Ça a été vraiment un cas très, très controversé. Et Luis Aragonés avait été décrié pour sa sélection en 2008. Ça a été payant. Pour revenir à ce que vous disiez, petit aparté, Lamine Yamal, il a 18 ans. Ce qu'il fait est impressionnant à 18 ans.
Certes.
Okay, il ne parle pas d'âge, disait Mbappé. Me parle pas d'âge.
Non, mais il y a 18 ans, à 16 ans, il gagne un euro. Il est faramineux. On n'a pas vu ça depuis très longtemps.
Non, mais on n'est pas en train de remettre en cause son niveau,
mais on doit quand même le juger comme les autres. Tout le temps,
on ne remet pas en cause son niveau, on remet en cause la forme du moment.
Ah, mais la forme, les joueurs arrivent cuits. Ils arrivent blessés, ça a été aussi le cas en Espagne. Beaucoup de joueurs ont été sélectionnés blessés, ça a été le cas de Merino, le cas de Nico Williams, qui en plus, la blessure contre Uruguay a accentué sa blessure qu'il avait. Donc oui, aujourd'hui, est-ce que je suis rassuré? Oui, on a une équipe, on a un bloc défensif, et moi j'ai adoré Rodri. Rodri a fait un match monstrueux, on n'en parle pas.
Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est le grand gagnant de cette Coupe du Monde.
Pour moi, tout le monde le critiquait pour avoir gagné le Ballon d'Or, mais il montre pourquoi il l'a gagné.
En Espagne, ils disent justement que là, avec Olmo, c'était le meilleur joueur du match et qu'ils ont retrouvé peut-être le vrai Rodri, celui qu'ils ont envie de voir.
Bon, sur les autres joueurs, il y en a d'autres. On avait beaucoup parlé de Cucurella, par exemple, le tour d'avant.
Moins bien, mais à l'image de toute l'équipe, quoi, ils ont tous été moins bien. Ça a donné une prestation que moi j'ai trouvé moyenne, quoi. Tant mieux, ils se qualifient. De toute façon, ils méritent la qualification sur ce match. Maintenant, encore une fois, si c'est toujours l'équipe qu'on doit voir en futur vainqueur. Là, comme ça, ça m'éclabousse pas les yeux.
Ouais.
Évidemment que je vois toutes leurs qualités, que j'aime leur jeu, que j'aime ce qu'ils font sur le terrain. Mais je me dis qu'il y a des équipes qui vont pouvoir sur l'impact physique. Et si en plus on ajoute des qualités offensives, qui vont pouvoir les attraper, quoi.
Edgar, le problème, Daniel, aussi, c'est que, alors, non, mais on est tous d'accord pour dire que c'est une équipe qui monte en puissance, qui s'est calibrée pour être de mieux en mieux au fur et à mesure de la compétition. Mais au bout d'un moment, il va falloir aussi arriver à ce niveau-là, en fait. Et je pense qu'ils étaient pas loin de se faire surprendre aujourd'hui. Et en ayant ce genre de prestations, au bout d'un moment, ça va leur coûter cher si offensivement ils arrivent pas à cliquer. Maintenant, ils ont la chance, ou en tout cas le mérite, d'avoir cette défense ultra solide. Et c'est ça peut-être la différence par rapport à d'autres. Et comme je disais l'autre jour, je pense pas que ça soit la meilleure équipe parmi les favoris depuis le début de la compétition, loin de là. Par contre, c'est peut-être l'équipe qui a le moins de gros points faibles défensivement, qui est très solide, qui a toujours pas encaissé de but. Les deux centraux, ils sont en grande forme. Et Gilbert Gilbert, tu voulais qu'on souligne certains joueurs. Unai Simon, il fait un très très bon match ce soir. Et là, tu as un trio, Maxime, entre le gardien et les deux défenseurs centraux.
Je voulais t'en parler, ouais, justement.
Qui se connaissent très bien.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent en Espagne? Parce qu'on le sait, Unai Simon. Enfin, moi, en fait, j'ai envie de comparer avec un David Raya, par exemple, du côté d'Arsenal, qui a fait une saison exceptionnelle. Je dis pas qu'Unai Simon était discuté, mais depuis le début de la compétition, on l'a dit, ils ont encaissé zéro but. Je pense qu'il est en grande partie responsable aussi de cette solidité défensive. Est-ce qu'en Espagne, justement, ça y est, là, maintenant, il fait l'unanimité? Est-ce qu'on commence, qu'on continue quand même à parler de potentiellement que sa place n'est pas celle de numéro un? Enfin, voilà, comment on le juge aujourd'hui en Espagne? Parce que pour moi, c'est vraiment
raison,
un top gardien. Et avec Rodri aujourd'hui et Dani Olmo, pour moi, c'est les trois meilleurs joueurs de l'Espagne.
Mmh. Non, mais t'as raison. C'était un vrai débat jusque au moment même où l'Espagne était aux États-Unis. Ils étaient dans leur camp de base. C'était vraiment le débat toujours d'actualité au niveau des médias, parce que c'est sûr que si on regarde la saison, c'est le moins bon gardien des trois. Ça, y a aucun doute. Mais c'est le vice-capitaine de cette équipe. C'est un patron dans le vestiaire. C'est un homme de confiance de Luis de la Fuente. Et il montre pourquoi c'est le cas. Et il montre sur cette Coupe du Monde qu'on peut lui faire confiance. Tout le monde savait que c'était un bon gardien. Et je pense qu'il l'a rappelé à tout le monde pour se dire, OK, la marge entre lui et les autres, peut-être qu'elle est pas si grande que ça. Et oui, pour répondre à ta question, Max, là, il n'y a pas de débat parce que la Coupe du Monde est déjà enclenchée et que il est ultra solide depuis le début de cette compétition. Et surtout, c'est important d'avoir une défense et un gardien qui se connaissent et qui se font confiance. Et s'il y a bien une chose qu'on voit, c'est que Laporte et Koubarsi, ils se connaissent très bien et ils se font confiance. Et Laporte et Koubarsi font confiance à Unai Simon. C'est un gardien qui a du charisme, qui dégage de la sérénité aussi. Ce qui, Joan Garcia par exemple, ça a été le meilleur gardien en Liga. Mais est-ce que tu vas lancer un jeune joueur comme ça en Coupe du Monde qui a rarement été, qui est nouvellement appelé en sélection? Non, tu vas pas le lancer dans ces conditions-là. Donc Unai Simon aujourd'hui, il y a pas de débat, c'est lui le titulaire et il montre pourquoi c'est lui le titulaire. Je pense que ça va changer après la Coupe du Monde. Mais en tout cas, sur cette compétition-là, il est largement au niveau.
Merci Edgar.
Bah, à très vite du coup. Hein.
À très vite. Pas c'est quoi ton prochain match du coup là, dans ta tournée de jackpot?
Argentine-Égypte. Donc si on continue sur ce rythme-là, ça veut dire que demain, il y aura un triplé de Messi, un triplé de Salah et que ça va être un match légendaire encore.
Exactement. Okay.
Et en plus, il prend le boulard, le petit. Hein. Ah bah, tous les matchs où il va, il veut qu'il y ait 5-6.
J'ai juste beaucoup de chance, hein, Daniel. Hein.
Écoute, si un type comme toi n'a pas de chance, qui va en avoir?
Sinon, bonne nouvelle pour le PSG. Ils ont fait une demi-équipe, du coup, en vacances un peu plus tôt que prévu, quand même. En vue de la reprise, là, c'est toujours un peu compliqué.
Avec un Nuno Mendes qui s'est blessé, par contre. Hein.
Oui.
Il faudra surveiller.
Pas grave, au PSG, l'important, c'est d'être prêt en janvier.
Je remercie Pablo au 32-16. Tiens, on parlera Mercato PSG tout à l'heure avec Fabrice Hawkins qui nous rejoindra pour l'équipe de France. Mais il y a eu du Mercato PSG aujourd'hui. Vous saurez tout d'ici 1h du matin. Dans un instant, Trump qui met la main sur les décisions de la commission de discipline de l'arbitrage de la FIFA. On va l'entendre et on va vous raconter tout ce qui s'est passé et surtout prendre la mesure de cette dinguerie absolue dans l'after.